la vie de Moïse, nous allons ce matin procéder en trois temps, en considérant le passage qui nous relate la visite de Jéthro à Moïse. Ça va venir. Le premier temps concernera les retrouvailles de Moïse avec les siens. Le second, celui de la charge de Moïse et les conseils de Jéthro. Et puis le troisième, enfin, va proposer quelques prolongements sur la seconde partie. Nous commençons donc avec les retrouvailles et je vous invite à lire dans le livre de l'Exode, au chapitre 18, nous lisons les versets 1 à 12. Jéthro, prêtre de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait pour Moïse et pour Israël, son peuple, à savoir que le Seigneur avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée, ainsi que ses deux fils. L'un se nommait Gershom, immigré, car il avait dit « Je suis un immigré dans un pays étranger ». L'autre se nommait Éliézer, « Mon Dieu est un secours ». Car il avait dit, le Dieu de mon père est venu à mon secours et m'a délivré de la main de l'épée du Pharaon. Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint le trouver au désert, là où il campait à la montagne de Dieu. Il dit à Moïse, moi, Jéthro, ton beau-père, je viens te trouver avec ta femme, accompagné de ses deux fils. Moïse sortit à la rencontre de son beau-père, se prosterna et l'embrassa. Ils se demandèrent l'un à l'autre comment ils allaient, puis ils entrèrent sous la tente. Moïse raconta à son beau-père tout ce que le Seigneur avait fait au Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, ainsi que toutes les choses pénibles qui les avaient atteints en chemin et dont le Seigneur les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que le Seigneur avait fait à Israël, et de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Jéthro dit, béni soit le Seigneur qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main du Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je sais maintenant que le Seigneur est plus grand que tous les dieux, et cela alors que les Égyptiens les maltraitaient avec arrogance. Jéthro, beau-père de Moïse, prit un holocauste et des sacrifices pour Dieu. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent manger devant Dieu avec le beau-père de Moïse. Après la bataille contre Amalek, le peuple d'Israël arrive donc au mont Sinaï, enfin. Le peuple dit précisément au verset 5, « Au désert, à la montagne de Dieu ». C'est là donc, à proximité du mont Sinaï, que Jéthro vient à leur rencontre. Jéthro, le beau-père de Moïse, accompagné de Séphora, sa fille et femme de Moïse, ainsi que leurs deux fils, Gershom et Éliézer. La dernière fois qu'il a été question de... Je fais une toute petite parenthèse, c'est juste très bizarre parce que je n'ai pas mes repères, vous n'êtes pas aux mêmes endroits. Hein, donc, je referme la parenthèse. Merci Timothée. La dernière fois qu'il a été question de Séphora dans le texte de l'Exode, c'était au chapitre 4. Nous sommes au chapitre 12. Au chapitre 18. C'était au chapitre 4 quand Séphora et Moïse étaient en chemin pour se rendre en Égypte. Et depuis, plus rien à son sujet. Silence radio. Cependant, nous trouvons dans notre texte un détail éclairant sur ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est ce que nous lisons au verset 2. Moïse avait renvoyé Séphora. Alors qu'il se rendait en Égypte, Moïse a renvoyé Séphora et leur fils au pays de Madian. Que s'est-il passé ? Pour que Moïse se sépare ainsi de sa femme. Quelle peut être l'explication de ce renvoi ? Se sont-ils fâchés ? après la circoncision de leur fils qui avait failli coûter la vie à Moïse. Plus vraisemblablement, sans exclure complètement cette première hypothèse, c'est sans doute pour les protéger, elles et leurs fils, que Moïse les a renvoyés au pays de Madian à ce moment-là. Rappelons ici que la mission de sauvetage du peuple d'Israël, dans laquelle Moïse s'était engagé, n'était pas sans risque à vue humaine. Il était en effet très risqué pour Moïse, lui, le renégat, le meurtrier, le fugitif, de retourner en Égypte et de se présenter devant Pharaon. Ceci dit, une question reste en suspens ici, si cette hypothèse est la bonne. Pourquoi avoir emmené sa famille une partie du chemin, si c'était pour les renvoyer ensuite au pays de Madian ? Il est possible que Moïse ait beaucoup tergiversé à ce sujet et qu'il n'ait finalement pris cette décision que pendant le chemin, voire même peut-être a-t-il changé d'avis alors qu'il était en chemin. Quelle que soit l'explication du renvoi de Séphora, il semblerait en tout cas, avec certitude, que Moïse ait donné rendez-vous aux siens près du mont Sinaï une fois qu'il serait sorti d'Égypte. Et ici, nous nous souvenons que Dieu avait annoncé dès le départ, dès l'épisode du buisson ardent, qu'après la sortie de l'Égypte, il viendrait à la montagne de Dieu pour l'adorer. C'est Exode 3, verset 12. Il était donc facile de prévoir ce rendez-vous, d'autant plus que le mont Sinaï n'est pas très loin du pays de Madian. Facile pour autant que l'on ait une entière confiance en la parole de Dieu, ce qui était à l'évidence le cas pour Moïse, pour Séphora et pour Jéthro. Ceci dit, cette longue séparation a dû être difficile pour toute la famille, pour Séphora qui s'est retrouvé tout seul avec les enfants pendant plus d'un an, pour les enfants qui ne voyaient pas leur père, qui ne voyaient plus leur père, pour Moïse qui s'est retrouvé loin des siens avec une lourde charge à porter. C'est parce qu'il a appris, c'est ce que nous dit le texte, tout ce que Dieu a fait pour Moïse et pour Israël en les faisant sortir d'Égypte, que Jéthro vient à ce moment-là, à leur rencontre, dit le texte au verset 1. Alors comment en a-t-il entendu parler ? Comment savait-il qu'ils étaient maintenant au mont Sinaï ? Il n'y a pas de portable, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de chaîne d'infos en continu, etc. Donc, comment le savait-il ? Sans doute par des nomades qui venaient d'Égypte et qui ont rapporté les derniers événements. Sans doute par des nomades, ou peut-être par des nomades qui ont croisé le peuple d'Israël dans le désert. Il y a dû y avoir dans les retrouvailles beaucoup d'émotions, des embrassades, des rires, des pleurs. Et puis, passer les premiers instants où l'on se demande comment ça va, où on prend des nouvelles les uns des autres, ils se sont retrouvés, dit le texte, sous la tente pour discuter. C'est là, au verset 8, nous dit le texte, que Moïse a raconté à son beau-père, très certainement dans le détail, tout ce qui s'était passé depuis son départ, depuis plus d'un an. Tout ce que le Seigneur a fait à Pharaon, et à l'Égypte, tout ce que Dieu a fait pour délivrer Israël. Toutes les choses pénibles, dit le texte, qui les ont atteints en chemin et dont le Seigneur les a délivrés. Ce compte-rendu a suscité de la joie chez Jéthro, qui a béni Dieu, verset 10, et qui a fait une confession de foi remarquable, verset 11. « Je sais maintenant que le Seigneur est le plus grand, est plus grand que tous les dieux. » C'est par des sacrifices au Seigneur que ces retrouvailles s'achèvent, des sacrifices que Jéthro, en tant que chef de clan, va offrir au Seigneur. On se souvient ici que pour l'instant, il n'y a pas de sacerdoce en Israël, il n'y a pas de prêtre consacré. Tout ça va venir après le don de la loi. Donc là, on est encore dans le système patriarcal où c'est le chef de clan qui offre les sacrifices. des sacrifices qui vont être suivis par un repas avec Jéthro, Moïse, Aaron et tous les anciens d'Israël, dit le texte. Voilà pour le premier temps. Et je passe maintenant à la suite du récit avec les conseils de Jéthro. Et je lis les versets 13 à 27. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Le peuple se tint debout devant Moïse du matin au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, « Que fais-tu là pour ce peuple ? Pourquoi es-tu assis là tout seul ? Et pourquoi tout le peuple se tient-il debout devant toi du matin au soir ?» Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand il y a un litige, on vient devant moi, je fais office de juge entre les deux parties et je fais connaître les prescriptions de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras à toi comme ce peuple qui est avec toi. La tâche est trop lourde pour toi. Tu ne pourras pas l'accomplir tout seul. » Maintenant, écoute-moi. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Représente le peuple auprès de Dieu et porte toi-même les affaires devant Dieu. Explique-leur les prescriptions et les lois. Fais-leur connaître la voie qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Toi, discerne parmi tout le peuple des hommes de valeur craignant Dieu, des hommes loyaux qui détestent le gain malhonnête. Nomme-les chefs des mille, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Qu'il juge le peuple en tout temps, qu'il porte devant toi toute affaire importante et qu'il juge eux-mêmes les affaires secondaires. Allège ta charge et qu'il la porte avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras tenir bon et tout ce peuple parviendra sain et sauf à son lieu. Moïse écouta son beau-père. Il fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes de valeur dans tout Israël et les plaça à la tête du peuple comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Il jugeait le peuple en tout temps, il portait devant Moïse les affaires difficiles et jugeait eux-mêmes toutes les affaires secondaires. Moïse laissa partir son beau-père qui s'en alla dans son pays. Que se passe-t-il ? Dans ce passage, il se passe que le matin des retrouvailles, Jéthro assiste au quotidien de la vie de Moïse. Un quotidien bien chargé. Un quotidien bien trop chargé. Chargé par quoi ? Par toutes les sollicitations du peuple à Moïse. Et c'est un peuple nombreux. Vous vous souvenez qu'on estime à peu près ce peuple à 2 millions d'individus à ce moment-là. Ainsi, du matin au soir, le peuple se présente devant Moïse pour consulter Dieu, pour savoir quoi faire dans une situation donnée en cas de litige. Et on imagine facilement la longue file interminable de personnes attendant leur tour dans les conditions difficiles du désert. À l'évidence, Moïse est la personne toute désignée pour assurer ce rôle de juge. N'a-t-il pas été choisi et envoyé par Dieu pour prendre soin de son peuple ? Jéthro assiste donc le lendemain des retrouvailles à ce spectacle. Un spectacle qui dure sans doute depuis leur départ de l'Égypte. Ça fait à peu près 2 mois qu'ils sont partis. Et on imagine facilement l'état d'épuisement de Moïse, mais sans doute que tout ce que nous pouvons imaginer est bien loin du compte. Moïse porte littéralement le peuple sur ses épaules. Ce peuple d'anciens esclaves qui a l'habitude d'obéir, qui a l'habitude qu'on lui dise quoi faire, et qui viennent sans cesse du matin au soir demander à Moïse comment se comporter. C'est épuisant pour Moïse, physiquement, moralement épuisant. Mais c'est aussi épuisant, dit le texte, pour le peuple, qui doit se tenir jour après jour, du matin au soir, debout, dans cette longue file d'attente, sans savoir s'ils vont passer ou s'ils passeront le jour d'après. Le peuple est nombreux, et Moïse est tout seul pour accomplir cette tâche colossale. Jéthro, qui est témoin de cette scène surréaliste, voit rapidement le problème et s'empresse de le dire à Moïse. Verset 14, le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, que fais-tu là pour ce peuple? Pourquoi es-tu assis là tout seul? Et pourquoi tout le peuple se tient-il debout devant toi du soir, du matin au soir? Après avoir vu et fait le constat du problème, Jéthro va proposer une solution à Moïse. C'est en réalité, en tout cas sans doute à ses yeux, une question de vie ou de mort pour Moïse. À ce rythme-là, Moïse ne tiendra pas bien longtemps. Versets 17 et 18, le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien, tu t'épuiseras, toi comme ce peuple qui est avec toi. La tâche est trop lourde pour toi, tu ne pourras pas l'accomplir tout seul. » Jéthro est un homme sage, un homme d'expérience, et les conseils qu'il va donner à son beau-fils sont pleins de sagesse. Que lui dit-il ? Il lui dit que ce qu'il fait n'est pas bien. Il lui dit que lui et le peuple vont finir par s'épuiser. Que la tâche est bien trop lourde pour lui tout seul. Qu'il doit absolument alléger sa charge. Qu'il doit discerner puis désigner des hommes de valeur qui vont l'épauler pour juger les cas les plus secondaires, les moins importants. Et que lui continuera alors à juger les cas prioritaires ou importants. Et puis que sa priorité, au verset 19, est de continuer à représenter le peuple devant Dieu en continuant à expliquer les prescriptions et les lois de Dieu. Ces hommes de valeur que Moïse doit choisir devront craindre Dieu, ils devront être loyaux et ils devront détester le gain malhonnête. Ils devront être établis sur le peuple de manière structurée afin que l'essentiel des besoins, peut-être même tous les besoins, puissent être couverts. Ainsi, on va structurer les choses avec une personne pour 1000, une personne pour 100, une personne pour 50, une personne pour 10. Et que fait Moïse ? Verset 24, il écouta son beau-père et organisa le peuple comme il le lui avait conseillé, en choisissant des hommes de valeur. Et puis après cela, Jéthro s'en retourne au pays de Madian. Troisième partie, prolongement. Nous arrivons donc maintenant dans ce dernier temps où j'aimerais faire quelques prolongements de ce passage, en particulier de ce passage sur les conseils, pour notre vie, et en particulier pour notre vie de service pour le Seigneur. Bien sûr, il y a des parallèles évidents et spécifiques à faire, en particulier avec le ministère pastoral ou le ministère d'anciens, voire même le ministère de diacre. Mais les conseils que Jéthro donne à Moïse sont valables pour chacun d'entre nous, quel que soit notre service pour le Seigneur, notre engagement dans l'Église. Avant de passer au premier prolongement, j'aimerais apporter une précision. Les parallèles avec le ministère pastoral étant évidents, j'aimerais dire qu'il n'y a pas dans ces prolongements de message direct ou indirect de ma part concernant mon ministère parmi vous. Il me semble que ça devait être dit. Il se trouve que dans l'enchaînement des textes dans cette série sur Moïse, c'était le passage suivant, et il fallait l'aborder à moins de passer par-dessus. Alors j'ai essayé de le faire de la manière la moins personnelle possible. J'espère y être parvenu. Vous me le direz si vous voulez bien après. Le premier prolongement concernant notre service pour le Seigneur, c'est la réalité du poids de la charge. Une charge qui peut être parfois, selon les ministères, bien lourde à porter. C'est vrai pour le ministère pastoral, il ne faut pas s'en cacher, mais pas que. C'est vrai pour beaucoup d'autres responsabilités. Dès que je veux servir le Seigneur avec diligence, je suis confronté à la réalité de la charge qu'il faut porter avec des degrés différents, bien évidemment. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours une réalité spirituelle derrière les apparences. Parce que servir le Seigneur, c'est sérieux. Parce que c'est même un combat spirituel. Parce qu'au final, c'est du salut éternel ou de la perdition éternelle d'hommes et de femmes dont il s'agit. Parce que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers pour accomplir cette charge, toutes ces tâches. Et tout cela, sans avoir été exhaustif, fait que le poids de la charge est souvent bien réel. En parlant de son ministère, l'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, a une formule que j'aimerais souligner ici. Il dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort qui mène à la mort, aux autres une odeur de vie qui mène à la vie, et qui est suffisant pour ces choses ? Qui est suffisant pour ces choses ? Devant la tâche à accomplir, devant la charge à porter, devant la responsabilité qui est la nôtre. Et nous pouvons nous écrier avec l'apôtre Paul, qui est suffisant pour ces choses ? Et la réponse à cette question, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur et le Seigneur seul qui est suffisant pour ces choses. Parce que nous, par nous-mêmes, nous ne sommes pas suffisants pour ces choses nous dépassent complètement en réalité. Le combat que nous devons mener est au-dessus de nos propres forces. La charge que nous devons porter est bien trop lourde pour nos petites épaules. Qui est suffisant pour ces choses ? Personne tout seul, mais quiconque s'appuie sur le Seigneur. Quiconque se décharge sur lui, quiconque cherche à le servir avec sagesse. Ce besoin de sagesse au service du Seigneur, ça en fait des S, m'amène à formuler un deuxième point qui est la tentation de vouloir trop en faire. Il s'agit ici de la folie, il s'agit ici de la folie de penser que nous pouvons faire les choses tout seuls. De penser que personne ne les fait aussi bien que nous. De penser que nous pouvons nous passer des autres. De penser que nous sommes indispensables. La réalité, c'est que personne n'est indispensable. La réalité, c'est que tout le monde est remplaçable. La réalité, c'est que faire beaucoup n'est jamais gage d'efficacité. À vouloir trop en faire, on finit par mal faire ce qu'on fait. À vouloir trop en faire, on finit par négliger les choses essentielles. La réalité, c'est que Dieu n'a jamais voulu que nous le servions seuls. Dès le départ, il a donné Ève à Adam comme une aide qui sera son vis-à-vis. comme une aide qui sera son vis-à-vis. Même le Seigneur s'est entouré de disciples. Et puis nous nous souvenons qu'il les a envoyés, qu'il a envoyé les 70 deux par deux. Et puis c'est en partie pour cette raison que le Seigneur a voulu l'Église, pour que nous ne soyons pas chacun dans notre coin, pour que nous servions ensemble, pour que nous ayons besoin, ou parce que nous avons besoin les uns des autres. Bien sûr, il faut ici veiller à trouver le bon équilibre entre trop en faire et ne pas en faire assez. Dire qu'il ne faut pas vouloir trop en faire, ce n'est pas appeler à tirer au flanc. Au contraire, c'est prendre la mesure de la tâche et de l'importance de la partager ou de la porter avec d'autres. Quel que soit mon service pour le Seigneur, si je veux bien le faire, si je me laisse interpeller par l'immensité des besoins, je serai tôt ou tard confronté à la charge importante de travail et à la tentation de trop en faire. Alors tout ça, ce n'est pas pour vous annoncer que je pars en vacances. Hein. La nécessité de partager la charge. Quelle est la solution ? La solution, c'est ce troisième point, qui est en réalité le point principal de notre texte, des conseils que Jéthro donne à Moïse. L'importance et même la nécessité de partager la charge, de l'alléger, de déléguer, comme on dit. C'est là le cœur de tout ce que Jéthro dit à Moïse. Pour nous engager sur ce chemin de l'allègement ou du partage de la charge, sur ce chemin de la délégation, il faut donc comprendre les choses que nous avons déjà évoquées. Il faut que je comprenne que si la tâche est immense, si les besoins sont importants, je ne suis pas donc indispensable. C'est une première chose. Et puis, j'ai mes limites, j'ai mes propres limites, j'ai mes propres besoins. Je suis soumis, chrétien ou pas, aux mêmes lois naturelles que tous les autres êtres humains. J'ai besoin de repos, je me fatigue. Il n'y a rien de spirituel à faire un burn-out en servant le Seigneur, par exemple. Comment alléger la charge ? Notre texte nous donne la réponse en la partageant, en la répartissant, en déléguant. Et c'est dans cette optique, par exemple, que nous réfléchissons et que nous travaillons dans l'Église à la mise en place d'un collège d'anciens. C'est dans cette optique, par exemple, que nous réfléchissons et que nous travaillons dans l'Église au renouvellement partiel du Conseil qui aura lieu le 23 juin prochain. Pour déléguer ou répartir la tâche, il faut commencer par évaluer les besoins. Puis, on évalue les compétences qui sont à disposition. Ensuite, on choisit les personnes qui nous semblent être les plus adaptés. Parfois, une formation peut être nécessaire. C'est ainsi que Jéthro et Moïse ont agi. Et c'est ainsi que nous devons agir dans l'Église. C'est ainsi que nous sommes véritablement efficaces au service du Seigneur, chacun dans son ou ses domaines de compétences, chacun avec une charge adaptée. Mais il y a un problème. Il y a un problème parce que nous parlons ici dans l'idéal. Le problème, c'est que parfois, les personnes nécessaires à l'allègement de la charge ne sont pas disponibles, ne sont tout simplement pas là, ne sont peut-être même pas dans l'Église. Parfois, elles y sont, mais elles ne s'engagent pas. C'est pourquoi il est du devoir de chacun d'entre nous, dans notre vie d'Église, de considérer la charge qu'il peut prendre pour servir le Seigneur, qu'il peut prendre peut-être en plus de ce qu'il prend déjà, qu'il peut prendre peut-être pour alléger la charge d'un frère ou d'une sœur qui a besoin d'être épaulé. Je le redis, si ces choses sont particulièrement vraies en lien avec le ministère pastoral, elles le sont dans tous les domaines de service. C'est vrai au conseil de l'Église, c'est vrai à la garderie, c'est vrai à l'école du dimanche, à la source, à Aide et Espoir, au groupe de jeunes, au groupe des ados, à la musique, à la présidence de culte, au jardinage, au nettoyage, et vous pouvez compléter la liste. C'est vrai dans tous les services de l'Église. Permettez-moi d'être direct avec vous ce matin. Si vous êtes chrétien, disciple de Jésus, êtes-vous engagé au service du Seigneur d'une manière ou d'une autre dans l'Église ? Si ce n'est pas le cas, n'y a-t-il pas un service dans lequel vous pourriez vous engager ? Si ce n'est pas le cas, cela veut peut-être dire que quelqu'un s'épuise en ce moment en faisant la part que vous pourriez faire. Si c'est le cas, n'y a-t-il pas autre chose que vous pourriez faire avant d'arriver au constat que votre barque est trop chargée ? Si c'est le cas, n'y a-t-il pas des choses que vous faites et qu'il faudrait déléguer à d'autres ? Servir le Seigneur dans l'Église est un travail d'équipe. Faire moins soi-même, ce n'est pas forcément moins faire. C'est souvent mieux faire ce que je fais, pour autant que d'autres ou que chacun fasse sa part. Et puis j'aimerais terminer avec une dernière chose qui est essentielle. C'est la nécessité de toujours faire de la place dans ma relation, c'est de toujours faire de la place dans mon service pour ma relation avec le Seigneur. Parfois, devant l'ampleur de la tâche, nous pouvons être tentés de court-circuiter cette partie-là. Nous pouvons être tentés de raccourcir le temps que nous devrions passer avec le Seigneur. Pourtant, rien n'est moins efficace au service du Seigneur que cela. Parce que c'est le Seigneur qui bénit l'ouvrage de nos mains. Parce que c'est lui qui est suffisant pour ces choses. Parce que c'est lui qui peut rendre fructueux notre service. Prendre le temps de la prière, le temps de la méditation de sa parole, prendre le temps de venir à l'étude biblique, de participer à la réunion de quartier, ou que sais-je, n'est jamais du temps perdu. Jamais. Au contraire. En plaçant le Seigneur au centre de mon service, au centre de ma vie, je lui dis que je m'attends à lui, que j'ai besoin de lui et que je veux servir en comptant sur lui. Agir ainsi, c'est la garantie que lui agira pour moi. C'est la garantie que mon service sera efficace parce que c'est lui qui le rendra efficace au travers de moi et pour sa gloire. Amen. Je vous invite à prendre quelques instants de méditation. Amen. Servir ensemble, agir ensemble, ensemble porter nos fardeaux. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, nous pouvons porter nos fardeaux. Le chant que nous allons chanter dit que nous pouvons prier, chanter, faire toutes ces choses, nous l'avons déjà fait ce matin, que nous pouvons porter nos fardeaux et dans la continuité de ce que nous avons dit, que nous pouvons servir ensemble. Nous allons chanter ce chant.